La Nouvelle Bouquinerie, l'émission des littératures et des poésies sur Radio Campus Paris. Une émission pour écouter des autrices et des auteurs qui nous éveillent. La Nouvelle Bouquinerie, présentée par l'écrivaine et poétesse Mirle.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, la Nouvelle Bouquinerie va aborder plusieurs livres. Je serai seule, en tout cas un peu accompagnée, à distance, différemment, car nous ne sommes jamais vraiment seuls, si nous y pensons bien. Premier livre dont nous allons parler ce soir, Les Hommes de la Rue du Bac. Willy Le Devin n'a pas pu être présent malheureusement ce soir. Je le salue chaleureusement. Une enquête menée pendant plusieurs mois avec le témoignage de plusieurs femmes qui révèlent l'horreur de l'assiègement du corps, de toutes les parties, de l'âme, de l'esprit, vous laissant à jamais une empreinte pour regarder la vie différemment. Inès Chatin est l'une d'entre elles, je la salue également, avec courage et avec une importance majeure. Elle nous dit ce qui a été comme ça a été. La force des mots, la force des descriptions, cet homme qu'elle appelle son adoptant, a fait d'elle une martyre, une enfant martyre, mais qui aujourd'hui a repris pleinement sa vie. Sa vie, sa force comme Gisèle Pellicot, celle de témoigner, de dire la vérité, de dire ce qui se passe dans l'alcôve des maisons, derrière ces portes du 7e arrondissement. Nous enjoignons avec beaucoup de respect à regarder tout ce qui a été comme ça a été. Nous allons parler également ce soir d'un autre livre, deux autres ouvrages plus spécifiquement. On va parler de Passé inaperçu et de Veux les roses, tous deux écrits par Gabrielle Schaff, qui sera avec nous ce soir par téléphone. On peut peut-être déjà tenter de la saluer. Est-ce que vous êtes avec nous, Gabrielle? Alors, on est en direct, donc techniquement, il faut pouvoir enchaîner. Et grâce à Antoine, que je salue également, on va pouvoir produire le miracle de la communication. Gabrielle, bonsoir.
Je vous entends parfaitement.
Moi aussi, je vous entends parfaitement. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, je dis « eux » parce que non, parce que j'ai un trou, mais parce que je vois Antoine qui veut me faire un petit signe pour le son. Bon, on va faire avec. C'est les principes du direct. En tout cas, je voulais vous remercier, Gabrielle, parce que je me suis dit, en vous lisant, en tout cas en lisant les deux, mais en disant passé inaperçu, suis-je tombée sur l'arrière-petite-fille naturelle ou arrière-arrière de Flaubert, et qui serait aussi la nièce de Julien Gracq. Alors, est-ce que ces deux auteurs sont des auteurs que vous avez lus? Alors, on a encore une petite interruption. Donc, comme je viens de vous le décrire, l'écriture de Gabrielle Schaff a quelque chose de cet héritage, de ses auteurs. Il y a effectivement une grande délicatesse, un travail de l'épure et un travail de la langue qui touche au sensible et à une langue à la fois ciselée, bien tenue et qui nous traverse tout spécialement. Et il faut savoir en tout cas que cette histoire de passé inaperçu n'est pas rien elle-même, puisqu'il est question de tout simplement de parler de personnes qu'on a nommées dans l'histoire, les malgré nous. Gabrielle, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'étaient les malgré nous?
Bien sûr, bonsoir. Les malgré nous, c'était les Alsaciens et les Mosellans qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été obligés de porter l'uniforme allemand, l'uniforme de la Wehrmacht, mais parfois aussi l'uniforme de la SS, et donc de se battre sous l'uniforme ennemi, puisque ces régions étaient françaises. Voilà, elles avaient été annexées et donc elles étaient devenues de fait allemandes sous le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on les a appelés les malgré nous. C'est une histoire assez ancienne, il y en avait déjà pendant la Première Guerre mondiale. Et ce sont les Français qui ont été obligés de se battre avec l'uniforme allemand, voilà, contre leur propre peuple. Et parfois même parmi les familles, il y avait des personnes du côté français et des personnes du côté allemand.
Alors cette histoire, c'est aussi celle de vos lignées familiales, puisqu'on va découvrir une histoire en creux d'amitié, une amitié avec un garçon, et puis derrière elle, à côté d'elle, ou révélateur d'elle, la vôtre. et avec une lignée aussi très spécifique, puisque c'est lignée à cette amie qui disparaît. Alors je ne vais pas dévoyer l'histoire pour que les lecteurs puissent faire leur chemin de découverte. Il est question pour lui d'être descendant de Harki, me semble-t-il.
C'est ça, tout à fait. En fait, l'histoire se déroule en 2015. Donc la narratrice est confrontée à la disparition de son meilleur ami qui s'appelle Fahed Nouri, et qui lui-même est descendant d'une famille de Harki, donc qui ont été obligés de se battre donc sous l'uniforme français. Et là, donc, c'était du côté, ça se passait en Algérie. Donc, c'est des histoires qui ont en fait des résonances entre elles. La narratrice, elle, est petite fille de Malgré nous, donc une histoire plutôt française. Et étrangement, quand elle se met à la recherche de cette amie, elle trouve des points de résonance. Et donc, j'ai construit la trame qui alterne passé et présent. Mais où il y a beaucoup de passé finalement, mais l'histoire se déroule au présent et à chaque fois en fait il y a des personnages, des photos, des phrases qui vont lui rappeler comme ça, comme tu le dis très bien, qui vont révéler en fait une part de son histoire à elle sans qu'elle s'en, enfin de manière un petit peu inattendue. Alors voilà, donc c'est deux histoires qui s'entremêlent au final.
Ce qui est assez passionnant dans la façon dont est construite l'intrigue, c'est qu'on voit ce rapport justement de fuite. Alors, peut-être est-ce une interprétation, du coup je vais te poser la question, parce que je vois qu'on est passé au tutoiement, de pouvoir te poser la question de est-ce que en fait la disparition de cette amie ou plutôt le fait qu'elle dit qu'elle le fuit au départ. Hein, elle dit qu'elle a beaucoup d'excuses pour ne pas le voir, comme on dit, j'ai piscine. Est-ce que ce qu'elle évite, en fin de compte, à travers lui, c'est pas quelque chose en elle ? Est-ce qu'on peut le voir comme ça ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'elle elle n'avait pas du tout conscience que cette amitié était construite finalement sur un terreau du passé, un terreau familial. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du traumatisme générationnel, en fait, qui finalement est présent en nous, alors qu'on n'a pas vécu nous directement ces histoires. Et c'est vrai que même les histoires qui ne sont pas forcément familiales, je pense, les histoires des autres nous traversent. Et c'est ça que j'ai eu envie de parler, en fait, de cette proximité qu'on peut ressentir avec l'autre, qui pourtant vient d'ailleurs, qui pourtant n'a pas forcément le même âge, n'a pas forcément le même sexe, n'a pas forcément la même origine géographique, et pourtant on se ressemble. Et on ne sait pas tout à fait pourquoi il y a des résonances entre les vécus. Et c'est finalement ce sentiment, c'est plus une intuition qui m'a guidée. En fait, mon grand-père me parlait toujours des Harkis avec beaucoup d'émotion, alors que lui-même n'avait pas vécu cette histoire, mais quelque part, il était proche de ces doubles perdants, de ces personnes qui ont porté l'uniforme de l'ennemi, entre guillemets, et il se reconnaissait dans ces vécus, et j'ai toujours été assez étonnée, en fait, de voir qu'à travers d'autres vécus, il pouvait lui-même s'exprimer de manière beaucoup plus incarnée et plus directement que si je l'avais juste interrogé sur sa propre histoire à lui. Donc c'est un terreau finalement autobiographique, dans le sens où j'ai moi-même été amenée à travailler sur un film qui parlait des Harkis, et ce film se tournait exactement à l'endroit où mes grands-parents avaient grandi. Et donc à chaque fois je venais les voir et je leur parlais de ce film. Pour moi c'était je voyais pas tout de suite le rapport, et c'est vrai que je les voyais. Enfin, je me rendais compte que mes grands-parents se sentaient concernés. Et c'est à partir de là que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à construire. Je n'avais pas forcément envie d'écrire leur histoire au départ. Je trouvais que c'était vertigineux. J'avais déjà fait un film sur leur vécu, mais je sentais que j'avais envie qu'il y avait des questions auxquelles je n'avais pas répondu, ou au contraire que des questions s'étaient ouvertes. Que plus je travaillais sur la question des Malgré nous, sur cette histoire, et notamment l'histoire de mes grands-parents, puisque ma grand-mère a été aussi malgré elle, c'est-à-dire que les femmes étaient incorporées dans les services paramilitaires. Elle prêtait aussi serment à Hitler, donc ma grand-mère était directement concernée aussi. Et donc, je sentais que j'avais du mal à me lancer dans un récit de guerre ou un récit de vie. C'est difficile de trouver le début, la fin et de tout raconter comme ça d'une vie. Et finalement, l'histoire fictive de Fahed, puisque cet ami-là n'existe pas. J'ai vraiment inventé cet ami, mais après tout le reste est plutôt issu de mes expériences vécues. Et en fait, c'est aussi une expérience littéraire, puisque d'avoir trouvé une trame de fiction, qui est la disparition de Fahed en 2015, m'a permis en fait de reconstruire l'histoire de non-fiction, documentaire de mes grands-parents, en acceptant les zones d'ombre, en acceptant ma propre subjectivité aussi.
Passer inaperçu, c'est la première partie pour l'émission qu'on aborde votre travail, ton travail. Moi, je navigue toujours entre le tu et le vous. C'est peut-être une tradition allemande, sie, duzen, je ne sais pas. Et on va écouter pendant quelques instants Louise Thomas avec Ekaterina.
Could apprenants.
Et là, tous les auditeurs se disent, mais mon Dieu, cette équipe technique, comment ils gèrent tout ça? Mais on va vous dire, eh ben, on fait tout ça avec amour, et c'est pour ça que c'est toujours aussi bon.
La nouvelle bouquinerie, Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Gabriel Schaff, par une présence assez mystique, puisque nous avons placé le téléphone dans la salle où nous discutons, où les invités d'habitude, nous avons l'occasion de les réunir. Et là, nous avons placé un téléphone à l'emplacement de l'invité, puisque Gabriel, vous êtes où?
Alors, je ne suis pas à Veules-les-Roses, parce que je ne vais jamais à Veules-les-Roses, on va en parler. Mais non, là, je suis simplement en vacances à l'île d'Oléron, voilà. C'est les vacances scolaires, et donc je ne suis pas à Paris, mais le cœur y est. Je suis avec vous quand même, et c'est, voilà, merci beaucoup d'avoir permis ce plateau à distance.
Ben merci à vous d'avoir accepté de prendre une pause pendant ces vacances. Alors, je partage une anecdote. En lisant un livre aux éditions Zulma, j'ai vu que c'était imprimé à Veules-les-Roses. Le savais-tu?
Alors oui, je savais qu'il y avait la librairie Zulma à Veules-les-Roses. Je suis quand même déjà allée à Veules-les-Roses. Hein. Je plaisante un peu, mais... Oui, c'est une très belle librairie, je vous la recommande. D'ailleurs, il y a aussi un festival qui s'appelle Autour des mots, qui a lieu en septembre, je crois. Donc, c'est un endroit où il faut aller, mais on peut aussi ne pas y aller et lire tout ce qui s'écrit à Veules-les-Roses ou sur Veules-les-Roses.
Alors, plus spécifiquement, ton recueil, donc chez cet éditeur que je te laisse nommer, Veules-les-Roses, pourquoi cette ville, pourquoi cette inspiration? Alors, c'est tout ton travail de poétesse, parce que Veules-les-Roses, c'est le second recueil dont on parle ce soir à la Nouvelle Bouquinerie. On a abordé un petit peu avant la pause musicale, passé inaperçu, on pourra y revenir. Et Veules-les-Roses, c'est un recueil de poésie où la musicalité de ta langue nous emmène dans une forme d'univers un peu, je dirais, à la Bulgakov. Il y a quelque chose un peu d'enlevé et d'hallucinatoire. En tout cas, c'est truculent à lire. Comment tu le présenterais, toi, pour les auditeurs?
Veules-les-Roses, je dirais que c'est l'histoire de personnes qui veulent aller à Veules-les-Roses, mais qui, à force d'en parler, ne vont jamais réussir à y parvenir. Voilà. Après, tu me posais la question de pourquoi Veules-les-Roses. Effectivement, j'avais écrit un roman précédemment. J'ai aussi une activité de réalisatrice, donc je suis assez... nourrie et bercée par les images, les documents, les archives. Et là, en l'occurrence, les cartes. Au départ, c'est vraiment un jeu oulipien. J'ai une grande lectrice de Pérec, notamment, et j'aimais bien l'idée de partir d'une carte. Et simplement, j'ai ouvert la carte IGN de la Normandie. Et Veules-les-Roses étant un village très touristique, on a une sorte de saturation du langage au sujet de Veules-les-Roses. Mais d'abord, je suis vraiment partie de cette carte au 25 millième qui a le grand intérêt d'offrir des lieux dits qui sont d'une grande poésie, à mon sens. Et j'aimais bien simplement ce nom de ce toponyme au départ, Veules-les-Roses. Et puis, j'avais envie de parler, ça c'est un sujet que je travaille depuis longtemps, de la minéralité et du trait de côte qui s'érode. Et je n'avais pas tout à fait conscience au départ que dans Veules-les-Roses, il y avait des roses, ça pouvait aussi parler d'érosion. Et donc, j'ai écrit, plutôt qu'un recueil, je dirais que ce sont des voix, puisqu'en fait, c'est presque de la poésie narrative, dans le sens où on avance comme ça dans le langage au fur et à mesure, et ces personnes ou ces voix cherchent à aller à Veules-les-Roses. Et puis à chaque fois, elles, ces voix, vont découvrir des histoires ou des mots ou des langages qui leur font peur ou qui vont comme ça qui vont mettre à jour d'autres histoires du passé. Et puis finalement, je me suis arrêtée à la cinquième partie parce que chaque partie, c'est une carte différente. Donc on arrive à la carte maritime. Et je me suis arrêtée avec ces roses qui tombent, puisqu'en fait, on remonte aussi le temps et Veules les roses avant, c'était juste Veules. Et donc, Veules tout court avec les mots qui tombent et ça s'érode aussi. Les mots, le langage s'érode aussi. En fait, ce qui m'intéressait, c'était que le langage nous raconte les lieux sans avoir forcément besoin de réécrire dessus. C'est-à-dire qu'on peut partir complètement du langage préexistant, des toponymes, pour raconter une histoire et donc un trajet. C'est plutôt une trajectoire.
Ouais, c'est bien, c'est ça qu'on sent. Alors pour les auditeurs, en plus, pour ceux qui auront l'occasion de découvrir ton recueil, il y a vraiment cette carte hein, dans le recueil. Donc on suit cette aventure de la langue. Il y a quelque chose de jubilatoire hein, dans Veux les roses. On sent, là, tu viens bien de nous l'expliquer, que ce mot, le graphisme, les graphèmes et les tirets avaient suscité en toi un appétit, en tout cas, de livrer le langage. Tu as parlé aussi de saturation. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer pour les auditeurs, c'est quoi un langage saturé? C'est peut-être un langage un peu trop d'auteur. Est-ce que tu pourrais rendre tout ça un peu plus accessible?
Oui, bien sûr. En fait, quand on se promène le long de la côte normande, si je parle par exemple en termes d'image, c'est difficile par exemple de voir Étretat sans penser à Monet. On est pétri de représentations qui nous ont préexisté et on voit à travers finalement les yeux d'autres artistes. Et la question toujours se pose de savoir comment voir, comment représenter un paysage. Alors qu'il a été tellement représenté. Et là, c'est la même chose avec le langage. Alors qu'il a été tellement écrit, tellement dit, ce paysage, comment renouveler en fait la langue et comment renouveler enfin voilà, c'est une nouvelle, trouver une nouvelle histoire à raconter. Et finalement, c'est aussi grâce, c'est une forme d'intertextualité, c'est-à-dire qu'on écrit à partir aussi de ce qui a été écrit. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est tout ce matériau qui n'est pas littéraire. Donc quand je parle de la saturation de langage, je parle par exemple du langage du tourisme. Je parle du langage du randonneur aussi qui cherche son chemin. Et comme en fait, pour moi, c'est aussi écrire, c'est aussi chercher un chemin à travers un paysage. C'est-à-dire que la langue est infinie. Et en fait, on taille comme ça un chemin pour trouver son regard. En fait. Et donc, je suis partie simplement du côté absurde qu'on a parfois quand on cherche son chemin ou qu'on le demande à d'autres personnes. En fait, on y arrive souvent, on n'y arrive pas parce que les mots peinent à parler des lieux. Les mots peinent à construire vraiment une géographie, je veux dire, de l'orientation. Et en revanche, je trouve que souvent, moi, je me perds beaucoup, j'ai beaucoup de mal à m'orienter dans l'espace et je suis partie vraiment de ça, de quelqu'un qui cherche son chemin et pourquoi il irait là et pas ailleurs. Et en fait, c'est assez poétique, je trouve, de partir de cette envie comme ça d'aller quelque part et de se perdre. Donc, c'est aussi, ça parle aussi d'écriture, évidemment, puisque l'écriture, c'est aussi une expérience de se perdre, en fait, dans la langue et de retrouver son propre chemin. Mmh.
Eh bien, ce chemin, on va peut-être le trouver avec Gilda, qu'on va écouter ce soir. Gilda, que je salue aussi. Moi, j'étais à l'école avec elle, au cours Simon. Gilda, on va écouter L'Utopiste et on se retrouve après avec Gabriel Schaff. Merci à toi.
Imagine deux femmes comme toi et moi, il y a 3000 ans, avec les mêmes discussions, les mêmes réflexions, les mêmes désirs de changer, même les mêmes combats à mener. L'une dit à l'autre, je suis fatiguée dans la et je ne veux pas me lever. Utopiste. 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 Imagine toujours ces deux femmes comme toi et moi. Là, maintenant, on a les mêmes discussions, les mêmes réflexions, les mêmes désirs de changer, même les mêmes combats à mener. L'une dit à l'autre, j'ai de l'espoir pour notre avenir. parents, je me dis que c'était pire. On aura des trucs à raconter. Changer même les mêmes combats à mener. L'utopiste a le même espoir que toi. La fatigue est à baisser les bras comme moi. Tu me fais peur là. Tu me fais peur.
Et c'était Gilda avec l'utopiste. Et maintenant, on va du côté du petit coin de lecture, comme tous les mois. On va parler de Qui des deux, de Béatrice Alemania à l'école des loisirs.
Les filles, c'est l'heure du petit coin lecture.
J'arrive.
Allez les crocros, les crococos, les croconiques. Le petit coin lecture sur les bords de la littérature.
On parle de quel livre aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on vous parle de...
Qui des deux ?
De Béatrice Alemania. Les parents de Pascaline la chauve-souris se disputent.
Ah non ! Des crayons bouillis, c'est bien meilleur.
Eh bien, pour une fois, ce sera comme je dis, frit.
Une fois, on fait toujours comme tu veux, bouillis.
Frit.
Oui.
Que faire face à des parents qui se disputent quand on les aime tous les deux ?
Free !
Oui.
À qui des deux donner raison ? Ce qu'on aime au petit coin lecture.
On aime le dédoublement de Pascaline.
Free !
Oui.
Free !
Oui.
Maman a raison, mais peut-être papa aussi.
Non, mais maman...
Mais qui des deux ?
Qui des deux ?
Pascaline s'étire comme un élastique et devient double. Deux Pascalines se font face.
Pascaline, maman.
Et papa Pascaline.
Tu veux ma photo ?
Et toi, rends-moi mon doudou.
Ton doudou, tu rêves, je l'ai eu à mon anniversaire.
Au mien, tu veux dire ?
Tu l'as cassé.
C'est ta faute.
Attends, quand on est deux, on a tout en double.
Tu veux dire, ton anniversaire est deux fois plus de cadeaux.
Youhou!
On aime la réconciliation des parents.
Chez les crapauds d'eau, les voisins, on entonne la valse du moustique. Pascamama les encourage car elle sait que c'est sur cette valse que ses parents ont dansé pour la première fois ensemble.
Chantez plus fort, cassez la baraque.
Et ça marche. Les deux parents finissent par se réconcilier.
Je préfère mille fois les grillons frits, mais si tu m'offres cette danse, je les mange même en soupe.
Vraiment, même en soupe.
Et même cru.
On aime que Pascaline n'ait pas à choisir.
Mais quand même, frits ou bouillis. Alors, qui avait raison?
Tu sais quoi, on ne choisit pas. Ou alors on choisit les deux en même temps. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Les deux en même temps.
C'était le petit coin lecture avec
Julie,
Mathilde
et Marie. Aujourd'hui avec
Qui t'es deux
de Béatrice Alemania. Un livre paru aux éditions L'École des loisirs en 2026.
Et nous sommes toujours ensemble avec Gabrielle Schaff pour parler de Passé inaperçu, édité aux éditions du Seuil, et d'un recueil de poésie qui s'appelle « Veulent les roses » aux éditions MF. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai eu un trou de mémoire? Est-ce que c'est ça, Gabrielle?
Oui, c'est exactement ça.
C'est ça. Bon, ma mémoire ne flanche pas trop. On va pouvoir continuer à parler de votre travail, à ce beau travail. Tout à l'heure, j'ai entendu quand vous assez nettement quelque chose qui me donne envie de rebondir sur le travail de Passé inaperçu, donc de rebasculer sur ce travail de roman. Tu as évoqué la narratrice. Est-ce que ta façon de voir la littérature, c'est celle de Marcel Proust, hein? Il faisait une division entre l'autofiction et la narration, qui est un genre pur de littérature, même si on pourrait s'entendre sur toutes les inflexions à apporter. Est-ce que c'est aussi ta conception?
Oui, c'est vrai que je pars du principe qu'à partir du moment où il y a écriture, on est tout de suite dans une forme de fiction. C'est pour ça que je trouve assez juste finalement le mot d'autofiction. J'aime bien aussi parler de non-fiction, mais là, dans mon cas, c'est plus une autofiction. Voilà, donc j'aurais pu dire que cette narratrice s'appelle Gabrielle, ça fonctionne aussi, mais en tout cas, je suis plus à l'aise avec le fait que l'écriture soit une construction et que finalement... toutes les personnes qui, même si elles portent les vrais prénoms qu'elles ont dans la vie, deviennent des personnages de papier. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup inspirée en fait au moment d'écrire Passé inaperçu, c'était la lecture par exemple de L'imposteur de Javier Cercas, qu'il avait écrit quelques années auparavant. Et où, en tant qu'écrivain, il se posait cette question de l'imposture, à partir de quand en fait on bascule dans la fiction. Et pour lui, il y a une phrase qui revient tout le temps dans ce roman que j'aime beaucoup, c'est « la réalité tue, la fiction sauve ». Et je ressentais beaucoup ça avec mes grands-parents, qui avaient du mal à mettre des mots. Et ma grand-mère disait par exemple que quand on raconte, on transforme, et c'est jamais vraiment vrai. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire, ou de faire des films, ou en tout cas de porter du récit. C'était ce jamais vraiment vrai qui m'a intéressée, en fait. Et c'est là que s'ouvre, en fait, la littérature.
Comment on passe pour toi, justement, de la réalisation, parce que tu as une formation à la base à FEMIS, comment on passe de cette écriture pour l'image vers une écriture pour la lecture?
Eh bien, pour moi, les deux écritures sont complémentaires. Je dirais que les deux se nourrissent. L'image, en fait, me nourrit quand j'écris un texte littéraire. Et inversement, le fait d'avoir une pratique d'écriture m'aide aussi à réaliser des films. Mais j'ai l'impression que c'est toujours le même mode d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a toujours un entremêlement de réel et de fiction. Et que je me sens très à l'aise avec l'idée du cadre, du hors-champ, et de ce qu'on montre et de ce qu'on ne montre pas, de ce qui est dit et de ce qui ne se dit pas aussi, ce qui existe entre les lignes. Donc je ne fais pas de franc de franches différences finalement entre les deux écritures.
Alors, il y a un extrait du roman qui est assez, assez truculent. C'est quand la narratrice, pardon, pour rester dans l'exactitude de ton processus et ta conception de ton travail, la narratrice indique une rencontre avec Jacques Chirac sur une aire d'autoroute. Et je propose aux auditeurs d'en entendre juste un extrait. Monsieur Chirac, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez refusé de reconnaître le passé des Malgré nous et je me suis empressée de définir les incorporés de force français dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père était l'un d'eux. J'avais dû me pencher vers son oreille pour hurler la phrase à cause de l'atmosphère bruyante de la salle, aussi vaste qu'un terminal d'aéroport. Piqué au vif, il m'a interrompu. Bien sûr qu'il savait ce qu'étaient les Malgré nous. Il acceptait volontiers de me recevoir. Il a impétueusement ordonné à son directeur de cabinet de me donner un rendez-vous dès que possible. Ce dernier a joué le jeu en feignant de noter quelque chose, comme vous le faites souvent aussi, par politesse. Il y avait longtemps qu'on ne voyait plus Jacques Chirac s'exprimer dans les médias. J'avais été étonnée d'un accord obtenu ainsi, sur un coin de table, entre Landouillette et Bernadette. Donc on appréciera la rime. Est-ce que cette anecdote, tu l'as inventée ou elle est réelle ?
Non, en fait, effectivement, tout ce qui est lié au Malgré nous, à l'histoire de Malgré nous, n'est pas inventé. Mais là, il y a une sorte de pacte, je pense, avec le lecteur. Effectivement, les personnes comme Jacques Chirac ou comme mes grands-parents, je ne peux pas leur prêter voilà, des mots qu'ils n'ont pas eus. Mais on va dire que c'est l'ensemble du texte qui devient un roman. Mais effectivement, cette anecdote est tout à fait vraie. Ouais, ouais. C'était assez... En fait, j'ai appris, d'ailleurs, c'est dans le texte aussi, je crois. J'ai appris par la suite que Jacques Chirac adorait s'arrêter sur les aires d'autoroute pour manger des andouillettes. C'était quand même une habitude. Et c'est vrai que c'était drôle de le croiser là, alors que j'arrivais pas à le joindre par la voie classique, la voie officielle. Donc je pouvais pas ne pas mettre effectivement cette scène dans le roman, sachant qu'il est beaucoup question de la reconnaissance et de la non-reconnaissance. C'est-à-dire, comme c'est un roman, enfin, c'est une histoire qui parle de silence. Le silence qui est dans une famille, mais qui finalement se déploie à l'échelle d'un pays. L'incorporation de force existe toujours. Hein. Les Ukrainiens sont incorporés de force aujourd'hui du côté russe. Et en fait, on a tendance, enfin, l'histoire a tendance à culpabiliser les individus. Et à ne pas, ne pas reprendre à sa charge ses vécus, de manière collective, j'entends, même si parfois ça a pu être le cas. Et en tout cas, Jacques Chirac ne l'avait pas fait à l'époque encore. Donc j'avais juste envie de l'entendre là-dessus et de savoir ce qu'il pouvait dire sur les Malgré nous. Est-ce que c'était pour lui des personnes qui étaient mortes pour la France, puisqu'il y a eu des centaines de milliers d'incorporés de force en Alsace et en Moselle. Donc, disons que le fait qu'une histoire aussi importante n'ait pas été transmise à toute la jeunesse. Moi, j'ai grandi à Nancy, donc une ville qui n'avait pas été annexée et on ne m'a pas parlé de cette histoire à l'école, alors que mes grands-parents eux-mêmes l'avaient vécue. On était dans l'Est de la France. Donc, je pense qu'aussi, ça m'a intéressée aussi, toujours sur cette question du récit, de l'histoire, de ce qui se dit et de ce qui ne se dit pas, mais de façon aussi bien individuelle que collective, puisque forcément, les deux sont liés.
Ouais, c'est hallucinant, en fait, la description que tu fais là, parce qu'on voit la résonance des thèmes, donc parce que cette charge, forcément, elle va revenir aux descendants, à toi. Aux autres, et de ce fait, il ne l'a pas fait, il n'a pas fait ce travail de reconnaissance, et on voit bien, je discutais la dernière fois dans le train avec Delphine Horviller, elle me disait, quand je reçois des familles ashkénazes, des fois je les arrête quand je les sens perturbées, et je leur dis, mais il est où le fantôme ? Elle parlait des fantômes familiaux, donc là, il était question bien sûr de la Shoah, et qu'à un moment donné, ce qui n'est pas nommé, ce qui n'est pas dit, va perdurer, va exister encore plus fort, et qu'à un moment donné, ce travail à minima d'un État de reconnaître la situation telle qu'elle a été quand la situation est pacifiée est quasiment un devoir pour les descendants. Parce qu'une question me vient aussi, du coup, enfin, m'est venue en t'écoutant, c'est est-ce que cette langue du non-dit, c'est pas toi qui la portes dans ton écriture ? Est-ce que tu pourrais la concevoir comme ça ?
Oui, tout à fait. Je pense même que que l'envie d'écrire, elle provient de ces non-dits. Je pense que d'ailleurs, on a toute une littérature qui parle du silence, des disparitions. L'imagination, en fait, s'enclenche à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi citer cette phrase de Javier Cercas quand il dit « la fiction sauve ». C'est-à-dire que la fiction, ce qu'on entend par la fiction, c'est en fait une... elle est salvatrice dans le sens où elle va pouvoir recoller en fait les morceaux et faire avec les trous et se réapproprier, digérer en fait ce qui existe comme récit et ceux qui n'ont pas été transmis et pour recréer une histoire. Et je pense que c'est extrêmement important pour pas seulement pour la mémoire, puisque c'est vrai que moi je fais partie de la génération du devoir de mémoire absolu où quand on était enfant on nous disait qu'il fallait absolument se souvenir du passé, et c'est tout à fait exact, sauf qu'en fait, cette mémoire n'est pas... Il y a forcément des trous. L'État n'a pas forcément repris à son compte la multiplicité des histoires vécues pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc après, c'est effectivement aux personnes, aux écrivains, aux cinéastes, de s'en emparer et de la construire. Mais c'est toujours une construction, et c'est ça qui m'intéresse.
Tout à l'heure, tu as parlé de double perdant. Je trouvais ça, ce terme, assez fort pour comparer les Malgré nous et les Harkis, les doubles perdants, là où potentiellement on pourrait se dire qu'il n'y a jamais de gagnant dans une guerre, et même d'aller avec Hannah Arendt, de se dire la nazie avait gagné la guerre, ou si d'autres issues se déroulaient, eh bien on ne dirait plus qu'il y a des perdants et gagnants. En tout cas, il y aurait une bascule de camp. Cette réflexion des perdants, est-ce que tu as senti que c'était présent chez ces aïeux que tu as décrit tout à l'heure, ce sentiment d'avoir perdu ou d'être quelqu'un à exclure?
Oui, alors eux n'avaient pas cette expression. C'est une expression de mon éditeur Bernard Comment qu'il a eue et que j'ai trouvé juste et très intéressante pour justement faire passer cette histoire à des potentiels lecteurs. Mais elle me parlait beaucoup parce que mon grand-père en fait avait toujours cette tristesse de toute façon de ne pas avoir pu être du bon côté, c'est-à-dire de toute façon les héros n'étaient pas cette porte leur a été fermée d'emblée et après ça posait la question aussi de qu'est-ce que c'est un héros. C'est pour ça que je parlais aussi de l'imposteur de Javier Cercas. Qu'est-ce que c'est un héros sinon aussi une autre façon de raconter des histoires. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'incorporation de force cette double peine, en fait. D'ailleurs, il parlait beaucoup de peine, mon grand-père. Il ne parlait pas forcément de... Évidemment, il parlait de la honte, mais c'est la peine d'être doublement abandonné, en fait. D'avoir à la fois d'être, des fois, déjà obligé d'aller se battre. C'est déjà ce que vivent tous les soldats. Mais en plus... Pour une idéologie qu'il élaborait. Enfin, lui, c'est ce qu'il disait. Et donc là, il y a effectivement une situation doublement tragique. C'est ce qui est plus intéressant. À la limite, c'est plus le double qui est intéressant dans l'expression double perdant que le mot perdant. Je suis assez d'accord. Pose un peu problème puisque qui gagne, qui perd. C'est encore une autre question.
En tout cas, ce qui gagne avec toi, Gabriel Chasse, c'est la littérature. Parce que tu ne l'as pas entendu tout à l'heure, tu me l'as dit qu'à la pause, que tu n'avais pas entendu la façon dont j'avais pu décrire ton travail entre l'arrière-arrière-arrière-petite fille de Flaubert, il faudrait regarder la généalogie. En plus, il n'a pas eu d'enfant, mais bon. Donc, une écriture flaubertienne et j'ai dit la nièce de Julien Gracq. En tout cas, on a une écriture forte, on comprend tout ce que tu dis sur le rapport à la géographie. En tout cas, l'essence de ton écriture parle d'une âme en vie, d'une force vitale qui traverse son écriture et qui très certainement rend fier tous les tiens malgré ce qui peut être perçu par le champ de l'histoire.
Merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'entendre ces mots sur mon travail. C'est la première fois qu'on parle de Julien Gracq et de Flaubert en parlant de mon travail, donc c'est très agréable. Et effectivement, je voulais aussi parler de mon autre éditeur, Bastien Gallet, qui est aux éditions MF et donc qui a créé cette nouvelle collection avec Laure Gauthier, Poésie commune, et qui en fait ouvre comme ça aussi le champ de la poésie, puisque moi je pensais avoir écrit avec Vollerose plutôt du théâtre, puisqu'il y a une grande place à l'oralité faite dans les deux livres. Et finalement, il a trouvé sa place, ses textes, dans une collection de poésie. Et d'ailleurs, tous les livres des éditions MF sont très beaux aussi graphiquement et donnent aussi la part belle au côté plastique des écritures. Donc, je vous encourage vivement à tous les lire. Ils sont vraiment passionnants.
On vous invite, avec Gabriel, à lire Passer inaperçu, édité aux éditions Seuil, et ce recueil Veulent les rôles chez MF. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci Gabriel d'avoir été avec nous, y compris à distance. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Je salue Antoine à la réalisation. Et au mois prochain, à bientôt.
Merci, au revoir.
Et des auteurs qui nous éveillent. La nouvelle bouquinerie, présentée par l'écrivaine et poétesse Myre Le. Mm-hmm.